Nous retrouvons l'évangile de Jean ce matin, l'évangile de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, je vous invite à trouver ce chapitre. Il y a plusieurs semaines déjà, trois semaines si ma mémoire est juste, nous avons fait un survol de tout le chapitre, si vous vous souvenez. Nous sommes toujours à la découverte de Jésus. Et souvenons-nous un peu du contexte, Jésus monte à Jérusalem pour la fête. C'était sûrement la fête des tabernacles qui était là. Et il se présente, il enseigne, il monte au milieu, donc troisième, quatrième jour de cette semaine où cette fête se passait. Il va discuter avec les chefs religieux, il va donner un ensemble d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons nous examiner les versets 37 à 53 parce que Jésus va se présenter et nous allons voir quelques réactions face à lui. Et puis, on va tenter de réfléchir, répondre à la question. Et alors, si je crois en Jésus, quelles sont les conséquences? On dit croire en Jésus, on interpelle les gens et on dit il faut croire en Jésus, et ça c'est bien beau, et il faut, mais et alors, quelles sont les conséquences? Y en a-t-il? Il y en a, je vous l'assure, mais quelles sont les conséquences si on croit en lui? Et finalement, qu'est-ce que ça change pour le meilleur, pour le pire, pour ceux qui ne croient pas? Quelles sont les conséquences là? Nous allons essayer de voir ça brièvement ce matin. Je vous invite à suivre avec moi alors que je fais la lecture de ce passage. Si vous y êtes dans votre exemplaire de la Bible, papier, électronique, j'espère que vous avez le passage devant les yeux. Jean chapitre 7, verset 37, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre, verset 53. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits !» Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point des prophètes. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Alors, prions, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide pour comprendre ta parole, que tu éclaires notre intelligence, que tu nous donnes de comprendre ce que tu as pour nous et par ton esprit puissant, que tu nous remplisses de force, de volonté pour mettre en pratique ce que nous comprenons, ce que toi tu vas nous révéler, et ainsi qu'il soit évident pour tous que c'est toi qui nous fais avancer avec toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, Jésus ici va faire un ensemble de déclarations tout au début du passage. Je vous invite à revenir au verset 37. Parce que Jésus est dans le temple, sûrement. Donc il se présente, il est debout. Sûrement là où sont rassemblés le plus grand nombre au temple. C'est le dernier jour, le grand jour de la fête. Alors, cela ne nous parle pas vraiment parce que nous ne sommes pas juifs. Nous ne suivons pas les fêtes juives. Et donc, on se dit, bon, le dernier jour, la fête est terminée, cette célébration, le dernier jour. Et alors? Mais lorsqu'on compare avec les fêtes de l'Éternel, les fêtes au tabernacle et ensuite au temple dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'au bout des 7 jours, que ce soit pour la Pâque, que ce soit aussi pour la fête des tabernacles, ça se terminait avec un grand rassemblement. Il y avait de la joie, il y avait des sacrifices, il y avait de l'adoration envers Dieu. Et le sentiment... parmi les gens, c'était, oui, cette joie, cette reconnaissance envers Dieu. Et en fait, si ici nous avons affaire à la fête des tabernacles, c'était une des 3 fêtes où tous les hommes étaient obligés de venir à Jérusalem. Donc là, un peu partout d'Israël, des gens venaient et se présentaient devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit alors que nous lisons ce passage et même d'autres dans les évangiles. Nous avons tendance à critiquer les gens de l'époque de Jésus pour leur religiosité, un peu leur superficialité. Ils faisaient juste les choses à l'extérieur. Mais il ne faut jamais oublier que pour la plupart d'entre eux, ils étaient sincères. Ils venaient... dans l'esprit de, oui, d'adorer Dieu, d'accomplir ce que Dieu avait fait. Et c'était des gens, pour beaucoup d'entre eux, qui voulaient s'attacher à Dieu, qui voulaient faire ce qui est juste. S'y prenaient mal, bien sûr, et Jésus est venu donc pour leur montrer le chemin vers le royaume de Dieu, et il est venu donc pour leur montrer autre chose. Mais beaucoup d'entre eux étaient sincères, on peut dire, c'était des gens qui voulaient s'approcher de Dieu, qui faisaient ce qui est juste. Et finalement, ce sont à ces personnes-là que Jésus parle. Ce sont des gens religieux. Ce sont des gens plutôt bien. Ce n'étaient pas de grands pécheurs, mais des personnes fidèles. Et c'est à ces personnes-là que Jésus, lorsqu'il se tient debout au verset 37, va exprimer ses paroles « si quelqu'un a soif ». Et tout de suite, nous, on va penser physiquement, soif. Si on ne boit pas dans la journée, eh ben, le soir, lorsqu'il arrive, ben, on a soif, n'est-ce pas? Et on se dit, je vais boire un petit quelque chose. Si on va un jour, si on va 2 jours sans boire, on commence à être un peu mal. Puis si on va 3 jours sans boire, il commence à avoir de grandes conséquences, n'est-ce pas? Et on ne peut pas tenir très longtemps sans boire. Et lorsqu'on a soif, il paraît, les médecins, les chercheurs disent, dès qu'on commence à avoir soif, c'est que le corps, il est déjà en manque d'eau. Donc tout de suite, le corps, il réagit, il dit, il me manque quelque chose, il faut qu'on intervienne. Donc voilà, après, avec de l'eau, du Pepsi, pas du Coca, hein, du Pepsi. Alors... il faut boire. Et la soif est quelque chose qui est expérimenté par tout le monde, sans exception. Et quand Jésus dit « si quelqu'un a soif », on peut dire « ça c'est moi ». Et les gens auxquels Jésus s'adressait, quand ils ont entendu « si quelqu'un a soif »,« moi j'ai soif ». Mais bien sûr, nous le savons, mais c'est bien de se le rappeler, si quelqu'un a soif, pas physiquement. Bien que ça c'est bien réel et il faut étancher sa soif quand on a soif, et merci Seigneur que nous pouvons le faire. Mais ce n'est pas le besoin physique dont Jésus parle ici. Si quelqu'un a soif, en fait, c'est spirituel. Puisque la réponse, Jésus dit qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, au Fils de Dieu, à celui qui peut vraiment désaltérer. À celui qui peut vraiment répondre à ce besoin. Et le contraste ici était frappant pour les gens de l'époque de Jésus. Encore une fois, comme on est loin dans le temps, dans la culture de cette époque, c'est un peu difficile pour nous à voir, mais le contraste entre les rites religieux que ces personnes étaient en train de faire, venir au temple, accomplir des sacrifices, adorer Dieu là, dans cet endroit que lui, il avait déterminé, ça c'était bien, mais ce n'était pas ça qui allait vraiment les aider. Ce n'était pas vraiment ça qui allait les sauver, bien sûr. Et Jésus, au lieu ici de continuer dans leur lignée de pensée, il présente un grand contraste. La religion, les œuvres, ça laissera toujours dans la soif. Il y aura toujours un manque. Mais avec Jésus, eh ben, à ce moment-là, on a bien plus qu'il ne faut. On est désaltéré. Là, on n'aura pas de souci. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais on se pose la question, et peut-être vous vous la posez, d'autres se posent cette question, qui viennent à moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour les gens de l'époque, ils voyaient Jésus, pouvaient physiquement se rapprocher de lui. Mais aujourd'hui, vous et moi, 21e siècle, 2019, venir à Jésus, bah, on ne le voit pas. Avec nos yeux physiques, est-ce que vous voyez Jésus? Alors, si vous le voyez, venez me voir après, hein, il faudrait qu'on en discute. Mais bon, nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux physiques. Donc, nous comprenons très bien que c'est spirituellement que ça se passe, mais venir à Jésus, c'est quoi ça? Et Jésus apporte une réponse dans la suite du verset. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ok, ça non plus, ça n'aide pas trop. Et boire Jésus, il a déjà parlé au chapitre 6 de manger de sa chair, de manger de son corps. Bien sûr, pas physiquement, nous ne sommes pas des cannibales, hein. Attention. Mais qu'ils boivent, de quoi est-ce qu'on parle là? Et comprenons bien que si jamais on sortait dans les rues et on apportait ce langage-là, qu'on disait aux gens, ben, venez à Jésus, buvez Jésus, mangez Jésus, ils vont dire, mais vous êtes complètement fous. Non, mais ça ne va pas là, quand même. Vous êtes dans quelle secte, vous? Et bien sûr, verset 38, celui qui a croit. Ah, d'accord. D'accord, ça on comprend. Celui qui croit en moi. Alors, Jésus est en train de montrer que venir à lui, boire de lui, manger de lui, finalement c'est croire en lui. Mais bon, ça nous aide un peu, mais quand même croire en Jésus, ça reste quand même parfois simplement des mots. Croire en Jésus. Ok, très bien, n'importe qui peut dire ça, je crois en Jésus. Combien de fois on a entendu parler des gens qui disent, moi je crois en Dieu. Hein? Mais ça n'affecte en rien leur vie. Leur vie n'est pas changée. Et donc, Jésus dit, celui qui croit en moi. Alors, ici, nous avons cette idée de confiance. Et confiance dans tous les aspects de la vie. La confiance en Jésus, spécifiquement, Jésus est Dieu, donc quelque part on se confie en Dieu, mais en Jésus, dans tous les aspects. Lorsqu'on se lève le matin, on se dit, Jésus, je place ma confiance en toi. Et lorsque j'ai un souci, quand un appareil tombe en panne, quand je reçois un coup de téléphone avec une mauvaise nouvelle, lorsque quelqu'un est injuste envers moi, lorsque quelqu'un me fait du mal, et ce sont toutes des choses qui nous arrivent, n'est-ce pas? À un moment ou à un autre. Lorsque nous avons besoin de gérer une situation trop complexe, on se dit là, je ne vois pas la sortie. Je ne vois pas la solution. Là, je n'en peux plus. Dans ces moments-là, pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, de croire en Jésus, c'est-à-dire de placer notre confiance, de lui remettre cette situation, de dire, je ne sais pas comment faire, mais Seigneur, toi tu sais. Et puis au-delà de cela, c'est parfois nous savons ce qu'il faut faire, mais nous sommes réticents à faire le pas, parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce que ça va me coûter? Quelles seront les conséquences de cela? Mais Seigneur, si je fais ceci, si je t'obéis là, mais regarde, voici ce qui va m'arriver. Si je suis obéissant, voilà les conséquences et j'ai un peu peur de ces conséquences. Cette semaine, je lisais dans l'Ancien Testament, je suis tombé sur cette histoire de Élie et la veuve de Sarepta. C'est une histoire que moi je connais très bien, peut-être vous aussi, mais j'étais de nouveau frappé avec cette idée que Élie arrive dans la ville, il parle avec cette veuve, lui demande à manger, et la femme dit bah, « j'ai simplement ce qu'il faut pour moi, pour mon fils, je ramasse quelques morceaux de bois, je vais utiliser la farine, l'huile, je vais cuire quelques gâteaux, on va manger ça, et après on va mourir parce qu'on n'a plus rien. » Et Élie lui dit bah, « va, fais comme tu as dit, mais d'abord, prépare-moi un gâteau et me l'apporter. » Et en lisant cela, j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Si je fais le calcul humain, ah bah tant pis Élie, j'aurais tellement voulu répondre à ton besoin. J'aurais tellement voulu te préparer quelque chose, mais je n'ai plus rien. Alors bon, désolé Élie, mais voilà, je vais faire mes gâteaux et puis avec mon fils on va manger, on va mourir. Si on fait le calcul humain, c'est comme ça qu'on aurait réagi. Mais l'exemple de cette femme, c'est remarquable. Elle va préparer d'abord pour Élie. Et qu'est-ce qui va arriver? Contre toute attente, un miracle de Dieu, parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a eu confiance en Dieu, la farine, l'huile ne se sont pas épuisées. Ça vient de Dieu. Mais imaginez-vous, si elle ne l'avait pas fait, si elle s'était dit... Bah, je ne peux pas, j'aurais tellement voulu si j'avais un peu plus. Bah, là, oui, volontiers, j'aurais donné, mais il ne me reste pratiquement plus rien. Elle se serait privée de cette bénédiction de Dieu, de voir ce miracle de la part de Dieu, et il est bien possible qu'elle, avec son fils, ils seraient morts tous les deux. Imaginez-vous. Mais non, cet exemple de confiance, et ça, c'est la confiance en Dieu. Quand peut-être Dieu nous demande des choses et on se dit, mais si je fais ça, si réellement j'agis comme ça, ben, Seigneur, tu vois ce qui va arriver. Il ne me restera plus rien. Ah bon, et Dieu n'a-t-il pas toutes les ressources du monde? Oui. Alors, est-ce que ça fait peur? Oui. Cette veuve de Sarepta, à mon avis, lorsqu'elle est rentrée chez elle et elle commençait à préparer pour Élie, à mon avis, dans son esprit, elle s'est dit, mais... vraiment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas logique, là. Je vais donner ces gâteaux à cet homme, je ne le connais pas. C'est un étranger, même. Là, ce n'était pas dans une ville d'Israël. Élie, il était juif, et donc, c'était comme un étranger, venait, il lui demande ça. Et cette femme, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais, là? Mais elle a fait. Et c'est ça, la confiance. Cette foi... Et parfois, ça va nous coûter. La confiance en Dieu, parfois, souvent, je peux dire, va nous coûter. Et va sembler illogique avec des calculs humains. Mais lorsque nous arrivons à ce moment où nous savons ce que Dieu demande de nous, et nous sommes des gens qui ont de la connaissance. Je suis convaincu, chacun ici, on a une connaissance spirituelle, nous connaissons assez bien les Écritures, gloire à Dieu. Alors, avec cette connaissance, nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais lorsque le moment vient pour mettre ça en pratique, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Si je fais telle ou telle chose, voici les conséquences. Si je parle à telle ou telle personne, voici ce que je risque. Si je fais tel ou tel choix, ben voilà ce qui va m'arriver. Si je donne telle ou telle chose, ben je n'aurai plus rien. Et d'un point de vue humain, oui, c'est peut-être le cas. Mais du point de vue de Dieu, qu'est-ce que lui va faire? Il va bénir l'obéissance. Et c'est ce que Jésus explique dans ces versets. Celui qui croit en moi, celui qui est prêt à sacrifier, celui qui est prêt à faire confiance, qu'est-ce qui va arriver? Regardez. Des fleuves, c'est l'idée ici de torrent. Ne pensez pas à une petite goutte qui vient de temps en temps. Non, mais des fleuves. une large ouverture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus ici reprend des passages prophétiques de l'Ancien Testament. Il les reprend et il les accomplit. Et il dit ces fleuves d'eau vive. Alors l'eau vive, souvent on va associer cela à la parole de Dieu. Donc bien sûr, ça passe par la Bible. Et lorsque nous, nous sommes remplis de la Bible, lorsque nous, nous faisons confiance à Dieu, eh bien, ça va sortir de nous. Comme ces fleuves d'eau qui vont sortir, jaillir d'une source. Ces fleuves d'eau couleront de son sein. Alors, encore une fois, bien sûr, comme nous sommes dans le domaine spirituel, ceci ne veut pas dire que de l'eau, littéralement, va sortir de nous. Et nous comprenons cela, ce serait quand même assez ridicule si c'était uniquement physique ici. Non, c'est spirituel, ces fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire qu'on est tellement rempli que cela déborde et que cela va faire du bien aux autres. Voici ce qui résulte de la confiance en Dieu. Voici ce qui résulte de ce pas de foi que nous faisons. Et vous avez remarqué peut-être la certitude de la chose. Celui qui croit en moi, donc ça c'est la condition. Et sans ça, on ne peut pas espérer la suite. Mais admettons, on croit, on fait confiance en Jésus. Voici le résultat. Des fleuves d'eau vive couleront. Il n'y a pas peut-être là. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas... il se peut. On verra. Non. C'est une certitude. Et vous allez dire, peut-être Robert, j'ai vraiment pas l'impression, notamment dans ma vie spirituelle, que des fleuves d'eau vive coulent de moi. J'ai l'impression un peu d'être à sec. Alors, il n'aimerait peut-être pas que j'en parle. Je vais le faire quand même. Bon, il n'est pas là, c'est pas bien grave. Mon père, cette semaine, pour des raisons qu'il aurait dû prévoir, mais voilà, mon père, je pense la plupart savent, il est maintenant chauffeur de camion, il est tombé en panne d'essence sur l'autoroute à un moment donné. Donc, voilà, avec une voiture, c'est un peu embêtant, mais là, gros diesel, ça, c'était toute une histoire. Il est resté bloqué, je pense, plus de 2h30, le temps que le dépanneur arrive, et tout, c'était toute une histoire. Le moteur à sec. Ça n'avance plus, hein. Il était obligé de se mettre sur le côté et tout. Bon. Et peut-être dans notre vie, on a l'impression spirituellement d'être comme ça, à sec. Alors là, plus rien ne marche. Le moteur ne tourne pas. On semble être inefficace. Et on se dit, mais pourquoi ? On se rend compte que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais croire que chacun comprend que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais parfois, c'est la réalité, n'est-ce pas ? On se dit, là, on est aux dernières gouttes. Hein. Là, il ne reste plus rien dans le réservoir. Et c'est là où il faut se remettre en question. Parce que Dieu, lui, il a toutes les ressources. Donc, le problème n'est pas de son côté. Bien sûr, Dieu n'est coupable en rien. Eh bien, à ce moment-là, d'où viendrait ce fait que je semble, ou même que je suis réellement assez spirituellement, malheureusement, ça vient de mon côté. C'est triste à dire, mais nous expérimentons cela par moments. Alors, que faire ? Quand le réservoir dans un véhicule est à sec, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on jette la voiture ? Non. Enfin, les riches peut-être, mais nous, non. Qu'est-ce qu'il faut ? Même si ça coûte cher, on va mettre de l'essence, on va mettre du diesel. Alors, dans notre vie, la réalité, c'est que par moments, spirituellement, nous sommes à sec. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remplir le réservoir. Et comment on fait ça ? C'est en retournant à la Bible. Je vais faire une déclaration, ne soyez pas étonnés. Quelqu'un qui régulièrement passe un bon moment dans la Bible ne sera jamais, jamais à sec, spirituellement. Si nous passons un temps important tous les jours dans la Bible, il sera impossible, impossible parce que c'est Dieu qui le fait, impossible d'être à sec spirituellement. Ce qui veut dire, si nous sommes à sec spirituellement, est-il possible que nous ne passons pas suffisamment de temps dans la Bible? Bien possible. Puisque cette eau, ces fleuves d'eau vive, on peut les associer à la Bible, cette source d'eau qui donne la vie. Mais au verset 39, Jésus va, ou Jean plus exactement, va nous donner un détail supplémentaire, puisque Jean fait ce commentaire lorsqu'il raconte ceci par la suite. Il, alors c'est Jésus, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire, il y allait avoir les gens qui, par la suite, croiraient en Jésus. Et Jésus, à l'avance, annonce que eux, ils allaient recevoir l'esprit et que c'est l'esprit de Dieu, qui allait accomplir ceci. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'ai cru en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai reçu l'esprit? Si nous sommes sauvés, nous avons automatiquement reçu l'esprit. Est-ce que je le laisse agir dans ma vie? Est-ce que je demande son aide? Parce que si je suis à sec spirituellement, alors c'est peut-être parce que je ne suis pas assez dans la Bible et je dois y retourner. C'est peut-être parce que je limite l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Lorsque nous commençons à se poser ces questions, on se dit, Seigneur, il y a peut-être des changements qui doivent être opérés dans ma vie. Peut-être je devrais remanier mon emploi du temps. Peut-être je suis tombé dans une habitude ou des habitudes qui m'empêchent de consacrer du temps à la Bible, qui m'empêche peut-être d'être à l'écoute de l'Esprit. Vous savez, nous sommes tellement occupés de nos jours, on court d'une chose à l'autre, et peut-être avec toutes nos occupations qui peuvent être légitimes, nous avons petit à petit effacé la place qui devait revenir au Saint-Esprit, et nous ne sommes plus à l'écoute. Ici, la parole, l'esprit sont au centre. Et Jésus dit, quand cela est le cas, là, ça va être des sources. Ces grandes ouvertures qui débordent et qui laissent jaillir l'eau. Et ce sera bénéfique pour nous. Parce que lorsqu'il y a l'eau, eh ben, ça pousse et c'est bénéfique pour tout ce qui est autour. Et puis, ça va se répandre et ça va faire du bien autour de nous. Comment faire le plus grand bien aux gens autour de vous? Ce n'est pas en donnant de l'argent, bien que ça aide, bien sûr. Ici, dans ce monde, on a besoin d'argent, et si on a des difficultés, eh ben, recevoir de l'aide ou même donner de l'aide financièrement, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le plus grand aide qu'on peut apporter. Non. Si nous voulons être de la plus grande aide à nos frères et sœurs, et même aux inconvertis qui sont autour de nous, c'est en étant nous-mêmes remplis de la Bible, remplis du Saint-Esprit, et à ce moment-là, nous aurons tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux divers besoins qui sont autour de nous. Alors, lorsque on commence à réfléchir sur notre vie, avons-nous cru en Jésus? Déjà pour le salut, j'aimerais croire que chacun ici l'ait fait. Mais sérieusement, se poser la question, est-ce que je peux identifier un jour, un moment, où j'ai reconnu mes péchés devant Dieu? J'ai reconnu que Jésus est le seul sauveur. À part lui, pas de salut. et que je l'ai demandé de me sauver, que j'ai dit, il est mon Seigneur. Et si ça s'est fait, ben, gloire à Dieu, amen. Mais tous les jours, est-ce que je renouvelle ma confiance en Jésus? Les verbes que nous voyons ici, ce n'est pas au passé. Qu'on ait cru une fois, qu'on ait fait confiance une fois dans le passé, et puis c'est bon. Non, ça c'est le salut. Une fois pour toutes. Pas besoin d'être re-sauvé. De toutes les façons, on ne pourrait pas. Mais ici, c'est je viens à Jésus constamment. Je bois constamment. Je fais confiance constamment. Et lorsque je fais ça, ben, ces fleuves d'eau vive vont couler constamment. C'est tout un processus. Et dans ce monde qui cherche par toutes les manières de nous pousser à simplement satisfaire nos désirs, d'être occupés nous-mêmes par ce qui nous intéresse, qui est tellement centré sur soi-même, ce monde qui cherche à nous influencer, comment faire face à cela? Comment garder un bon témoignage? Comment manifester autour de nous que Jésus est réellement notre sauveur? Ben, c'est ici. C'est en permettant à ces fleuves d'eau vive qui viennent de la parole, qui viennent de l'Esprit, de se répandre à travers nous. Est-ce que je peux dire honnêtement devant Dieu que la semaine dernière, mon expérience, tous les jours, ou peut-être même juste un jour, a été que j'avais des fleuves d'eau vive spirituelle qui sortaient de moi, que je faisais du bien spirituellement autour de moi. Est-ce que ça, c'est mon témoignage de la semaine dernière? Est-ce que je veux même que ce soit mon témoignage pour cette semaine à venir? Je prie que oui. Je veux que ce soit mon témoignage en moi. Et ça peut l'être. La réussite, elle est promise par Jésus ici. Mais lorsque nous examinons notre vie, est-ce que c'est de l'abondance? Ces grands fleuves? Ou est-ce que c'est plutôt à sec? Voici comment nous pouvons montrer que nous avons cru en Jésus. Alors, croire en Jésus, alors, les conséquences, eh bien, ce sont ces fleuves qui sont là. Donc ça, c'est, on va dire, les bonnes conséquences. Les conséquences que Jésus veut nous donner. Le produit, si vous voulez, de cela. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne croyons pas en Jésus? Lorsque nous ne lui faisons pas confiance, est-ce que c'est juste, voilà, sans conséquence, à prendre ou à laisser, sans réel impact sur notre vie? Ah non, 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 non. Parce que, à partir de verset 40, nous aurons affaire à un ensemble de personnes qui ont rejeté Jésus, qui n'ont pas cru en lui. Et regardez les conséquences de cela. Des gens de la foule, verset 40, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Et dans un premier temps, on peut dire « C'est bien. » Ces personnes qui ont entendu le discours de Jésus l'identifient comme le prophète. Okay, mais quel prophète? Mohamed? Sûrement pas. Okay. Soyons clairs là-dessus pour nos amis musulmans qui se trompent complètement là-dessus. Le Nouveau Testament, la Bible, ne parle jamais de Mohamed. J'ai discuté avec un musulman il y a quelques semaines qui essayait de me dire ça. J'ai dit, mais t'as lu la Bible? Cherchez-moi Mohamed là-dedans, il n'y est pas. Hein. Alors, le prophète, lequel? Eh ben, c'est celui promis à Moïse. Il faut aller dans Deutéronome pour retrouver cela, même dans le livre d'Exode. Dieu promet à Moïse de susciter un prophète après lui. Donc, on peut dire dans un premier temps, ces gens, ils ont raison, celui-ci est vraiment le prophète. Par contre, on peut être un peu déçu en comprenant que les gens de l'époque ne comprenaient pas que ce prophète promis par Dieu est le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même est le Sauveur. Donc, ils comprennent à moitié, mais parce qu'ils ne croient pas en Jésus, ils ne comprennent pas en totalité. Ils se trompent. Ils ont une part de vérité, mais pas le tout. Et c'est ça une conséquence de ne pas croire en Jésus, c'est qu'on a une partie de la vérité, mais on se trompe. Alors verset 41 continue, d'autres disaient, c'est le Christ. Alors là aussi, loin, celui choisi par Dieu. Mais même là, leur compréhension, elle n'est pas complète. Ils ont une partie, mais ils passent juste à côté. Et d'autres disaient, verset 41, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Alors, c'est très intéressant ici. Apparemment, il y avait des gens dans la foule qui connaissaient bien leur Bible. Et ils se sont dit, mais attendez, il me semble que j'avais entendu, probablement pas lu, parce qu'il y avait très peu d'exemplaires de l'Ancien Testament, mais cela était lu très régulièrement. Et c'est comme si quelqu'un dans la foule s'est dit, ouais, mais attends. Il me semble que j'avais entendu le rabbin, le chef de la synagogue, il avait lu le Messie, le Christ, celui qui devait venir, il ne vient pas de Galilée, hein. Non, mais là, vous trompez. Souvenez-vous. C'est comme si cette personne dit là, au milieu de la foule. Est-ce que c'est de la Galilée que doit venir le Christ? Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Alors là encore, ils sont tout proches. Ils sont presque là. Ils ont presque toute la vérité. Parce qu'ils ont raison. C'est de la postérité de David, la descendance, la lignée de David que devait venir le Christ. Et ça, c'était Jésus. Jésus, fils de David, descendant de David. Et du village de Bethléem, oui. Alors apparemment, soit ils avaient oublié, ou ils n'avaient pas entendu que Jésus est né à Bethléem. Certes, il a grandi à Nazareth, il a passé la plupart de son temps à Nazareth, en Galilée, donc au nord. Mais soit ces gens, ils avaient oublié que Jésus était né à Bethléem, ou bien ils ne l'avaient pas entendu. Parce que, souvenons-nous, Jésus, il a un peu plus de 30 ans. Et dans 30 ans, on oublie beaucoup de choses. L'info peut-être ne s'est pas peut-être répandue partout. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, il n'y avait pas des téléphones, il n'y avait pas toutes ces choses. Non. Donc peut-être certains n'avaient pas entendu le lieu où il était né. Donc, inexactitude, incompréhension. Et verset 43, il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Incompréhension qui arrive finalement à l'incroyance. L'un dit une chose, ah oui, peut-être il a raison. Ah, mais l'autre dit une autre chose. Ah oui, peut-être lui, il a raison. Et où est-ce qu'on va se situer? Et ça, c'est le monde aujourd'hui. Entre certains qui disent que Jésus est un prophète, entre certains qui disent que oui, il est le Fils de Dieu, mais il faut ajouter autre chose à lui, ou que sais-je encore. Les gens qui ne font pas confiance en Jésus, la conséquence de cela, c'est extrêmement grave. Parce qu'on passe à côté de la vérité. Et parce qu'on passe à côté de la vérité, on passe à côté de la vie éternelle. Donc c'est extrêmement grave. Alors, gloire à Dieu, verset 44, Dieu va épargner, va préserver son Fils. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Alors ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois dans les évangiles qu'on va chercher à faire cela. Mais personne ne met la main sur lui. Bien sûr, préservé par son Père Jésus, échappe ici à l'arrestation. Alors, au verset 45, nous découvrons un autre groupe qui a été en contact avec Jésus et qui n'a pas cru. Ainsi, les huissiers, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés par les chefs religieux, pour se saisir de Jésus, il faut remonter dans les versets avant le verset 35, 37 pour voir cela. ils retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Non mais attendez, vous aviez une chose à faire. Allez chercher cet homme et l'emmener ici. C'est pas compliqué, hein? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Verset 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier avec cet homme. Alors moi, je trouve que c'est tellement, tellement dommage et triste. Ces hommes ont été frappés de l'enseignement de Jésus. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial. Mais ils ne croient pas. Ils étaient si proches. Ils entendaient le Fils de Dieu parler, donner un enseignement parfait, avec un exemple de vie parfait. Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Ah, mais il a bien parlé. » C'était intéressant ce qu'il disait. Alors, verset 47, « Les pharisiens, donc les chefs religieux, répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» De nouveau, incompréhension. Et puis, un autre sentiment qu'on va commencer à voir dans ces versets, le mépris. Lorsque on ne fait pas confiance en Jésus, un sentiment qui revient très souvent, c'est le mépris. Et le mépris, en fait, trouve sa source dans l'orgueil. Si on va mépriser les gens, qui que ce soit, c'est parce que nous croyons être mieux que ces personnes. Et ça s'appelle de l'orgueil. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Verset 48, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui? Alors, c'est presque comique, rigolo, cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins deux hommes. Nicodème, qui va prendre la parole tout de suite. Lui, il aurait pu lever la main. Bah, oui, moi. Okay. Et puis, Joseph d'Arimathée. Lui aussi, c'était un chef. Lui aussi faisait partie, il n'était pas pharisien, mais il faisait partie de ces chefs religieux. Donc il y avait au moins deux hommes qui, avant la résurrection de Jésus, ne se sont pas trop manifestés, par peur, et ne les critiquons pas trop, parce que à leur place, nous aurions fait pareil. Mais ces chefs religieux, c'est le mépris. Non mais attendez, nous sommes instruits, nous avons fait des études, nous sommes zélés pour la loi. Nous sommes des chefs, nous sommes intelligents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soit abaissé pour croire à ce charpentier de Nazareth qui sort de nous ne savons d'où? Non mais, attendez, c'est pas possible. Et verset 49, il pousse ce mépris encore plus loin. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ça sous-entend nous. Nous connaissons la loi. Nous sommes docteurs de la loi. Nous sommes les enseignants. Ce sont nous qui avons fait les études. Nous sommes spirituels. Mais cette foule, les gens de la rue, monsieur tout le monde, ce sont des maudits. Waouh ! C'est grave, là. Est-ce que vous entendez ? C'est comme si on les entend. Non, mais ces gens-là, c'est normal qu'ils soient séduits par Jésus. Eux, ils ne connaissent rien. Ce sont des simples. Eux, ils n'ont pas fait d'études. S'ils avaient fait d'études, ben, ils seraient comme nous. Ils ne suivraient pas cet homme-là. Cette foule, ben, ce sont des maudits. C'est-à-dire maudits par Dieu à leur esprit parce qu'ils ne suivaient pas exactement la loi. Ce mépris vient parce que on ne fait pas confiance à Jésus. Les gens qui ne connaissent pas Dieu comme leur sauveur, il est tout à fait normal qu'ils soient dans l'orgueil, qu'ils regardent de haut les autres, qu'ils disent « nous sommes meilleurs ». Il est normal que toutes ces autres personnes fassent ces choix, suivent des pensées pour eux moyenâgeuses, se laissent séduire. Mais nous, attendez, voici mes diplômes. Voici l'université que j'ai fréquentée. Voici des belles paroles, des belles phrases. Voici toute la lecture que moi j'ai faite. Regardez tout ce que j'ai dépensé pour avoir cette position. Et vous voulez que je croie à la Bible? Non mais attendez, soyons sérieux là, disent certains. Et c'est là, au verset 50, le contraste arrive. Parce que lorsqu'on ne fait pas confiance à Jésus, lorsque on ne place pas notre foi en lui, à la fois pour le salut, mais aussi pour notre vie de tous les jours, il y aura incompréhension, il y aura division, il y aura mépris, orgueil. Mais regardez verset 50, le contraste avec Nicodème. C'est le même personnage du chapitre 3 qui était venu vers Jésus de nuit. Et j'ose croire, et je pense que les preuves sont là, on saura avec certitude un jour, mais j'ose croire que Nicodème se soit réellement converti. Je ne peux pas le dire définitivement, mais j'ose croire. Il me semble que oui. Nicodème va dire... C'est Jean qui nous rappelle que c'était lui qui était venu vers Jésus de nuit et qui était l'un d'entre eux, donc pas l'un d'entre des disciples, mais l'un d'entre des chefs religieux. Il va dire, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? C'est un peu sa façon pour dire, mais attendez, soyons logiques là. Ce que vous dites, c'est pas logique. Il dit, mais même notre loi à nous, que nous tenons tellement fermement, même elle permet à quelqu'un d'exposer sa cause, d'avoir son mot à dire. Et là, Nicodème dit, bah, vous faites tout le contraire. Donc, il se démarque. Donc, voyez le contraste entre ceux qui ne croient pas en Jésus. Incompréhension, division, mépris, orgueil. Et la simplicité de la confiance que Nicodème il a pour oser dire ces quelques mots. On aurait voulu qu'il aille plus loin, bien sûr. Mais mettons-nous à sa place. Il est là devant au moins 70 autres personnes, peut-être même plus. Et tous ne croyaient pas du tout comme lui. Tous étaient hostiles même à ce qu'il croyait. Alors si moi j'étais à sa place, je ne sais même pas si j'aurais osé dire ça. Ne parlons même pas d'aller plus loin. Donc Nicodème s'exprime, il manifeste quelque part sa confiance en Jésus. Et qu'est-ce qu'il a en retour? Verset 52. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ?» Alors, il l'insulte. Hein? « Toi aussi, tu es un étranger ?»« Toi qui as fait des études que Jésus a appelées, souvenons-nous, Jean chapitre 3, le docteur en Israël. » Nicodème, c'était un personnage important. Et là, il l'insulte. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Alors, même là, il se trompe. On ne prendra pas le temps ce matin de le voir. Mais il y a eu au moins un, et sûrement d'autres, mais il y a eu des prophètes qui sont venus de la Galilée. Donc là, les chefs religieux, ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Et nous voyons le contraste énorme. Alors, on revient à notre question de départ. Nous sommes à la découverte de Jésus. Et quelles sont les conséquences de croire en lui? Les conséquences de ne pas croire en lui sont dramatiques. Orgueil, division, mépris, incompréhension, inexactitude... Croire à des choses qui ne sont pas vraies, alors que lorsque nous plaçons continuellement notre confiance en Jésus, à ce moment-là, nous sommes en paix. À ce moment-là, nous avons cette vie en abondance que nous allons découvrir dans la suite. Nous aurons la capacité de faire du bien aux autres. Nous aurons la capacité de manifester l'amour de Dieu autour de nous. Nous aurons la capacité d'avoir de bonnes paroles, de bonnes attitudes. Et cela passe par ce rapprochement avec la parole de Dieu. encore une fois, examinons notre vie. Évaluons le temps que nous passons dans la Bible. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de passer trop de temps dans la Bible. Et lorsque nous revenons à la Bible comme source, ben cette source va jaillir de nous. Pas juste quelques gouttes de temps en temps, mais vraiment ces fleuves d'eau vive. Et lorsque le Saint-Esprit aura toute la liberté dans notre vie, lorsque nous serons à son écoute, lorsqu'on calme notre esprit, on met de côté tout ce qui pourrait nous distraire dans ce monde, et on est à son écoute, à travers la parole, à travers la prière, à ce moment-là, c'est Dieu qui s'en charge. Nous serons remplis. Nous serons débordants même de cette vie qui vient de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Pas simplement pour le pasteur, mais pour chacun de ses enfants. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Alors, si la semaine dernière, notre témoignage n'a pas pu être que régulièrement, j'avais ces fleuves d'eau vive qui coulaient de moi, qui se répandaient, qui faisaient du bien autour de moi, ben aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est ça qui est formidable. Dieu veut faire ceci en vous, en moi, aujourd'hui. Et malgré nos manquements, malgré les choses que nous aurions faites dans le passé, ben aujourd'hui, ça peut être un nouveau départ. Et demain le sera aussi. Et après-demain. Mais il faut qu'on commence. Ou peut-être recommencer. Et c'est Dieu qui le fera. On ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas juste le faire nous-mêmes, non. C'est une œuvre de Dieu. Et parce que c'est une œuvre de Dieu, il faut demander son aide. Cette prière, même si Dieu sait toutes choses, cette prière elle est importante et elle fait partie de cette confiance. On fait appel à Dieu parce qu'on sait qu'il répondra. Ce ne sont pas des paroles dans l'air, dans le vide. Non, lorsque nous prions, Dieu répondra. C'est Jacques, si je me souviens bien, chapitre 4, il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors nous allons implorer l'aide de Dieu pour faire toujours confiance à Jésus en toutes choses, faire ce pas de foi. Même si nous ne savons pas ce que cela va donner entièrement, bah faire ce pas de foi, de faire confiance en Jésus. Alors nous allons faire appel à Dieu dans la prière, prière silencieuse dans un premier temps, et puis moi je terminerai après quelques instants de silence. Oui, notre grand Dieu, nous venons devant toi. Tu nous vois tels que nous sommes, rien n'est caché à tes yeux. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pour ne pas t'avoir fait confiance dans le passé, de ne pas avoir fait ce que toi tu veux. Tu es un Dieu de pardon, tu restaures, tu relèves. Tu ne te lasses pas de nous remettre debout et de nous faire du bien. Merci que chaque jour est un nouveau départ avec toi. Merci que ton esprit est en nous toujours si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Merci qu'il est à l'œuvre. Nous demandons ton aide pour pouvoir te faire confiance davantage, pour nous rappeler ta puissance, ce que tu es dans toutes circonstances. Tu sais ce qui va nous arriver cette semaine, cet après-midi même. Tu as déjà prévu ta grâce et ton aide pour toute situation. Que tu nous aides toujours à nous tourner vers toi, à faire appel à toi, à crier à toi dans la prière pour chaque besoin que nous avons. De passer du temps dans ta parole, de nous laisser ressourcer par cette merveilleuse parole que tu nous as laissée. Et Seigneur, que ces fleuves d'eau vive soit évidente soit vu par tous ceux qui nous entourent, que nous soyons en mesure de faire du bien autour de nous, donne-nous de la compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te font pas confiance, qui méprisent, qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans l'incertitude. Seigneur, donne-nous de toujours leur montrer que c'est toi qui es digne de confiance. Donne-nous beaucoup de compassion, Seigneur. Donne-nous de prier pour ces personnes. Et ainsi, Seigneur, en toute chose, que tu sois exalté et glorifié. C'est en ton nom que nous prions. Amen.